C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 12 mars et aujourd'hui focus sur la 8e édition du festival Enquête de Science.
12 jours pendant lesquels les étudiants et étudiantes de l'ESIX, de l'IUT Infocom, de l'UFR STAPS, les associations Phoenix ECN, Ergo Science et de la Corpo Science vous proposeront des animations.
Pour en parler, nous serons avec Julien Legal, il est coordinateur du festival. Il sera accompagné de 6 étudiants de l'ESIX qui organisent l'atelier Mécatronique ou Magie. Et en deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages d'étudiants et étudiantes qui participent également à l'organisation du festival.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
En Allemagne, un homme détient désormais un record inédit, celui du nombre de vaccinations contre le Covid.
Ce ne sont pas 6, ni 10, ni même 20 doses que ce sexagénaire s'est fait injecter, mais 217 en l'espace d'à peine plus de 2 ans sur la durée de la pandémie Covid-19. L'homme n'a pas donné de motif précis qui l'aurait convaincu à prendre l'équivalent d'une dose par semaine. Il évoque simplement des raisons personnelles. Sur les 217, seuls 134 sont cliniquement prouvés, mais quand même, cela reste, vous en doutez, bien au-delà du schéma vaccinal recommandé.
C'est un chiffre impressionnant. Est-ce que ça a eu des effets sur son corps?
C'est la question que s'est posée son médecin. Résultat, aucun ou presque. Et déjà, c'est le plus important, son système immunitaire n'est ni affaibli, ni renforcé non plus. Alors rappelons-le, un vaccin, ça permet au corps de reconnaître une agression extérieure en injectant une partie de l'agent pathogène en question, ce qui lui permet de produire davantage d'anticorps. Surprise chez ce sujet aux 217 doses de vaccin, au lieu d'entraîner une inflammation comme c'est souvent le cas, le pathogène a eu l'effet inverse et a continué de produire des anticorps même après autant de doses, preuve que sa réponse immunitaire est toujours au taquet. Des scientifiques sont en train de travailler sur un projet étonnant, remplacer les bips bruyants présents dans les hôpitaux par des sons plus harmonieux.
Oui, et si cela peut faire sourire, l'objectif est en fait bien plus important, tout simplement sauver des vies. Je m'explique, en fait, selon une étude, les soignants perçoivent en moyenne un millier de bips et alarmes par jour, donc 15% sont jugés importants, sauf qu'à force de les entendre, ces derniers fatiguent et leur morale se détériore, ce qui a une influence directe sur la qualité des soins. Il arriverait même que le personnel de l'hôpital n'entende plus ces alarmes, les oublie, voire même les désactive. Résultat, on estime que 566 patients seraient morts pour ces raisons aux États-Unis entre janvier 2005 et juin 2010.
Et c'est donc pour cela que des chercheurs se penchent sur de nouveaux sons.
Et ce qui marcherait le mieux seraient les sons percussifs, comme par exemple l'entrechoquement de deux verres avec leur fréquence sonore si particulière. Reste maintenant aux scientifiques d'utiliser ces travaux sur la musique afin de définir la hauteur, le rythme et les fréquences idéales à ce qui pourrait remplacer les bips. Attention à rester prudent tout de même pour Judy Edworthy, professeure de psychologie à l'université de Plymouth. N'importe quel son peut à terme induire une fatigue liée aux alarmes, surtout pour des alertes répétitives et injustifiées. En Inde, cette fois-ci, des scientifiques ont assisté à un spectacle surprenant, celui de l'inhumation d'éléphants.
Et si le cimetière d'éléphants dont parlait Dee Mitchell existait finalement, des chercheurs ont pu identifier 5 tombeaux d'éléphantaux dans le nord du Bengale, au pied de l'Himalaya, des jeunes individus morts par accident, naturellement ou bien par maladie. Et ce qui est frappant, c'est la précision du rite funéraire. Les éléphants procèdent toujours de la même manière. Ils traînent le corps jusqu'à un endroit reculé, puis le disposent dans un trou, une fosse, sur le dos, complètement enfoui, sauf les pattes. Le tout fait en troupeau, suivi de longs barrissements pendant près d'une heure, enfin bref, une sacrée cérémonie.
Et pourquoi est-ce qu'elle est unique cette découverte?
Et parce que c'est la première fois qu'on observe de tels comportements. À vrai dire, les rites funéraires, c'est un petit peu un mystère dans le règne animal. On connaît ça et là quelques rituels chez les primates, chez les orques, mais rien de très impressionnant et rien de bien comparable au cas des pachydermes, des rites funéraires que l'on pourrait rapprocher de ceux de l'homme, et pour cause, il existe bien un lien. Ce qui explique ce comportement empathique, c'est la disposition de leurs neurones en fuseaux comme les nôtres. Une particularité qui, en plus de leur permettre d'avoir leur fameuse mémoire d'éléphant, leur concède aussi la capacité d'avoir une conscience de soi et donc de la mort. Un événement insolite en Afrique du Sud, un requin blanc meurt à cause d'une orque.
Une orque qui s'est attaquée seule à l'un des plus grands requins du monde au large de Mossel Bay. Elle lui a saisi la nageoire pectorale gauche avant de le pousser plusieurs fois et de finir par l'éviscérer. La scène a été observée par des scientifiques présents sur un bateau. Ces derniers ont même vu le cétacé repartir, un morceau de foie ensanglanté dans la gueule.
Mais au-delà de l'étonnement, cette scène inquiète grandement les scientifiques.
Oui, car s'il est fréquent de voir des orques s'attaquer à des requins en bande, en solitaire, c'est bien plus rare. Et pour Alison Towner, chercheuse en biologie marine, cet événement montre un changement radical de comportement chez le mammifère, changement causé par les activités humaines comme le dérèglement climatique et la pêche industrielle qui vont par exemple causer du stress à la faune marine. On sait désormais d'où vient le groove à l'écoute d'une musique.
Oui, le groove, c'est cette pulsion qui nous donne envie de bouger et de danser sur certaines musiques plus que sur d'autres. Et bien, des chercheurs français de l'INSERM et de l'université Aix-Marseille se sont penchés sur son origine. Ils ont réuni pour cela 30 volontaires pour leur faire écouter une dizaine de morceaux et ils se sont aperçus que les cobayes étaient davantage sensibles à la complexité du rythme qu'à la vitesse, qu'à la simple vitesse du tempo.
Et qu'est-ce qui provoque ce besoin de bouger ?
En fait, c'est la syncope. On va faire un peu de musique. Une syncope, c'est une rupture de rythme. Si une musique est trop linéaire, on s'ennuie. Et si au contraire, elle est trop syncopée, comme dans le free jazz, ça devient inaudible pour la plupart des oreilles non acclimatées. Le groove, c'est donc ce juste équilibre entre la régularité d'un rythme et le contretemps.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Depuis hier et jusqu'au 23 mars se déroule Enquête de science, un festival consacré à la médiation et à la vulgarisation scientifique, au programme des animations autour de sujets scientifiques comme des quiz, des escape games ou encore des murder parties. Et pour en savoir plus sur cette édition 2024 d'Enquête de science, la 8e, nous sommes aujourd'hui avec Julien Legal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du festival et avec nous également Mathias, Martin, Jamy, Tristan, Valentin et Romain, étudiants à l'ESIX et animateurs de l'atelier Mécatronique ou Magie. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais avant, on a commencé brièvement à présenter l'enquête de science. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ce que c'est ?
C'est un festival, donc, comme vous l'avez bien dit, de médiation scientifique qui au départ émane du campus 2 et plus précisément de la bibliothèque universitaire. L'idée première étant de dynamiser le campus 2. Il y a déjà la fête de la science, donc à peu près au mois d'octobre. Pendant la fête de la science, comme il y a beaucoup de manifestations, on a toujours un petit peu de mal à organiser ce que l'on souhaitait faire et on s'est dit on va créer un deuxième temps dans l'année qui permettrait de valoriser les sciences et de dynamiser le campus. Depuis quelques années, au départ, donc, c'est beaucoup d'enseignants qui animaient. Et depuis peut-être 3 éditions, c'est encore plus présent cette année, ce sont essentiellement les étudiants qui vont animer les différents ateliers auxquels vous pouvez assister.
Alors vous avez parlé des étudiants, qui en particulier, quelles filières sont celles qui animent ?
Alors aujourd'hui avec nous on a les étudiants de l'ESIX, du département mécatronique, qui sont en fait le premier groupe d'étudiants vraiment à avoir intégré le festival il y a déjà plusieurs éditions. Et à partir de cette expérience-là, je suis allé solliciter d'autres UFR, d'autres départements. Cette année, on aura l'UFR STAPS aussi, l'UFR Sciences avec notamment le département physique qui va créer un escape game. On a aussi des doctorants du LASLAR. Donc là, cette fois, c'est un laboratoire du campus 1. Donc ce qui est intéressant, c'est au départ, on est surtout parti du campus 2. Et depuis maintenant quelques années, il y a également d'autres campus qui sont intéressés par le sujet, donc le campus 1. Aujourd'hui aussi, cette année, le département info et communication du campus 3 qui a assuré toute la communication du festival. Donc là, c'était une nouveauté cette année. C'était d'aller même un petit peu plus loin, de pousser le curseur, vraiment la logique où c'est un festival animé par les étudiants, à destination des étudiants, avec même la communication qui est gérée par les étudiants. Donc là, on a vraiment bouclé la boucle sur le projet.
Et à la base, si on revient sur l'origine du projet, quelle a été la raison de sa mise en place ? Enfin, je ne sais pas qui, est-ce que vous étiez vous à l'origine, mais ouais, pourquoi on a eu l'idée un jour de créer Enquête de science ?
Oui, c'est moi qui, il y a déjà donc 8 ans, décidé d'imaginer ce projet-là, de mélanger au départ science et culture. C'était l'idée d'arriver à mélanger les deux. Et au fil du temps, donc, c'est devenu vraiment... On a toujours gardé cet aspect culture. On y a ajouté l'aspect jeu et ludique, puisque sur le campus, on a un public qui est très joueur. Donc, on a déjà testé plein d'animations à différents moments. On s'est dit qu'il faut rajouter aussi ce troisième mot-clé dans l'organisation du festival. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans l'objectif de dynamiser le campus, la bibliothèque universitaire où je travaille déjà sur le campus 2, mais aussi et de relier les différents départements, de mélanger des étudiants qui deviennent acteurs ou spectateurs, et qui partagent déjà leurs connaissances apprises dès les premières années.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap du programme ? Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année en particulier ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent ?
Alors, il y a toujours des classiques, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soir commence le tournoi de qualification du jeu d'échecs en ligne. Je crois que le tournoi d'échecs, il existe quasiment depuis la première édition. La seule différence, c'est que maintenant, c'est en ligne, et au départ, c'était uniquement en présentiel. On retrouvera à nouveau du e-sport, donc ça c'est d'autres collègues des étudiants présents aujourd'hui, donc de l'ESIX, qui vont animer un tournoi e-sport. Il y a un tournoi également Mario Kart sur le campus 3 qui sera animé par l'association Phoenix ECN, qui est l'association étudiante de e-sport, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est également très importante dans le festival. La Corpo Science, association étudiante, va également animer plusieurs temps, et notamment un temps fort avec un escape game. Il y a plusieurs temps forts dans le festival. Il y a mercredi sur le campus 2, il y aura le spectacle performance Exo-Territoire. Ça, c'est une vraie nouveauté, où on est à la fois acteur et spectateur du spectacle. Ceux qui seront acteurs seront habillés en cosmonaute. Ils ont un casque audio sur les oreilles et il y a toute une narration qui leur est dite. Il faut le prendre comme si on était astronaute et on découvre un nouveau territoire. Et donc, on va faire une sorte d'expérience et de déambulation sur le campus 2. Si on n'est pas acteur, on est spectateur et les spectateurs seront également munis d'un casque pour suivre la déambulation. Ça, c'est la première fois qu'on tente vraiment un côté spectacle. Voilà, ça, c'est la vraie nouveauté de l'année. Et puis, dans les autres temps forts, il y a une soirée Escape Game Murder Party qui aura lieu le 20 mars. Donc, l'Escape Game est géré par le département physique, notamment en lien avec Anne-Emmanuelle Le Grippagès, qui est enseignante d'anglais au département de l'UFR Sciences. Et on aura également donc, l'escape game de la Corpo Science et puis la Murder Party animée par les trois doctorants du LASLAR. Donc sur la même soirée, ça se sera au Campus 2 le 20 mars à partir de 17h.
Et pourquoi ces formes d'ateliers sont peut-être vous paraissent plus faciles pour parler de science auprès d'un plus grand public? En quoi est-ce que le fait de faire des murder parties, des escape games vont permettre aux gens de mieux comprendre les sciences finalement?
Au début du festival, notamment quand c'était des enseignants-chercheurs qui l'animaient en partie, il y avait déjà les associations étudiantes, mais il y avait aussi une bonne partie par les chercheurs. C'était davantage le format conférence, et on voit que ce format-là, il existe toujours, mais c'est peut-être pas l'état d'esprit du festival où on essaie de faire participer au maximum les spectateurs. C'est un bon exemple aujourd'hui avec les étudiants présents avec nous, puisqu'on va devoir vraiment tester des choses et en plus on aura les explications scientifiques, puisque c'est ça aussi la commande qui est faite aux différents groupes d'étudiants et notamment dans les ateliers de l'ESIX, puisqu'il y en aura 4 au total. C'est à la fois de vraiment d'avoir l'aspect ludique, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va essayer de... ils vous expliqueront tout à l'heure plus précisément ce qu'il en est pour leur atelier, et on va en même temps avoir tout un briefing autour de la science qu'on est en train de tester, sans vraiment s'en rendre compte. C'est ça qui est assez amusant.
Et alors justement, on en parlait, le fameux atelier. Donc, mécatronique ou magie, c'est vous, les étudiants qui de l'ESIX qui allez l'animer. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Ça va être quoi, cet atelier?
Alors, bonjour. Donc, je suis Romain de cet atelier, justement. L'atelier qu'on va vous présenter aujourd'hui au Campus 3, donc, c'est un atelier qui va parler de mécatronique ou magie. C'est le thème, le titre. Et l'objectif, donc, ça va être de vous emmener dans un braquage de banque. Vous allez être le joueur qui est allé essayer justement de braquer cette banque au travers de différents ateliers. Et donc, à vous de déterminer si derrière nos différents ateliers, il y a de la magie ou bien une explication rationnelle. Nous verrons cela le moment venu. En tout cas, je souhaite bon courage à tout le monde qui souhaite venir voir notre atelier pour trouver toutes les explications.
Alors, tu parlais de mécatronique ou magie. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer plus brièvement ce qu'on entend par mécatronique exactement?
Alors, la mécatronique, plus précisément, c'est l'association de plusieurs diverses sciences. Donc, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, des logiciels et CPU, donc des contrôleurs, ainsi que de la mécanique. Et donc, c'est cette réunion de ces quatre sciences qui vont nous donner donc la mécatronique. Et c'est ce qui va apparaître dans nos ateliers, puisque vous allez voir qu'on va utiliser toutes ces sciences donc, dans les différents ateliers que vous pourrez venir voir en suivant à l'endroit où on est positionné, donc au Campus 3 aujourd'hui, au Campus 2 le 14 et le 21 mars. Donc, dans l'après-midi de 13h30 à 16h30 et aujourd'hui de 11h30 à 13h30.
Et comment est-ce qu'il est né, cet atelier? C'est sorti d'où, cette idée? Pourquoi l'avoir mis en place?
En fait, on avait le choix entre différents thèmes, tous très intéressants. Et nous, personnellement, on a choisi le thème mécatronique ou magie. Parce que c'est vrai que quand on regarde des objets du quotidien, certains, on ne sait pas comment ils fonctionnent. On a un peu l'impression que c'est de la magie. Alors que non, dans la plupart des cas, c'est de la mécatronique. De l'informatique, de la mécanique ou tout ce que vous voulez. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de montrer dans notre atelier, dans nos ateliers.
Et est-ce que c'est aussi un moyen de peut-être parler
de vos sujets d'études qui sont peut-être plus complexes à expliquer quand vous le faites de manière un peu plus formelle. Là, utiliser le jeu, ça peut être aussi un bon moyen pour vous, étudiants, de faire comprendre ce que vous étudiez.
Bien sûr. En fait, le but aussi de cet atelier, c'est de transmettre la science d'une façon simple. Nous, on sait que ce qu'on fait en école, c'est compliqué. Et le but, c'est aussi de promouvoir la science à travers des choses simples. Et c'est comme ça qu'on réussit à transformer des sciences complexes avec des ateliers qui sont interactifs avec le public. Et le but, c'est qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe dans la science et qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a plein de moyens de faire de la science, etc.
Et vous tous, en tant qu'étudiants, le fait de participer à la médiation scientifique, qu'est-ce que ça vous apporte aussi à titre personnel? Est-ce que vous vous dites que c'est presque tout autant important d'apprendre ce que vous voyez en cours et aussi de savoir le retransmettre?
Bien sûr, ça nous a permis aussi d'acquérir des connaissances. Durant la fabrication des ateliers, on a pu acquérir des compétences en gestion de projet et aussi des compétences en technique. Donc oui, c'est très bénéfique.
Ce qui est très bien, c'est qu'en cours, on fait pas mal de choses qui relèvent de la théorique. On essaie d'apprendre des systèmes, on résout des équations, on essaie de les mettre en œuvre dans des calculs et de les relier. Mais c'est vraiment ces projets qui vont nous amener à faire ce qu'on a envie de faire, de pourquoi est-ce qu'on est là et de comprendre comment est-ce que vraiment ça marche et comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre aujourd'hui et plus tard dans notre vie quand nous serons des ingénieurs certifiés et diplômés. On va pouvoir vraiment s'exprimer à travers ces ateliers.
Je dirais également qu'il y a derrière cet atelier, il y a un vrai travail de recherche personnelle parce que du coup, on a utilisé différentes technologies, je ne vous dis pas lesquelles, à vous de trouver, mais c'est vraiment des technologies toutes différentes pour chaque atelier, et il a fallu aller chercher, se documenter par nous-mêmes, vraiment faire tout un travail de manière personnelle. Et donc c'est aussi ça l'intérêt de notre atelier et de ce festival, c'est en dehors des cours, savoir travailler par nous-mêmes et chercher des informations par nous-mêmes.
Je redonne la parole à Julien Legal. Quand vous l'avez conçu ce festival, c'était vraiment une chose que vous aviez en tête, en priorité, de permettre à des étudiants de se former à la médiation et aussi de travailler leur sujet d'une autre manière?
Oui, alors ça c'est beaucoup plus récemment, c'est vraiment dans les 3 dernières années où on a fait évoluer le principe même du festival. On a vraiment orienté la plupart des ateliers sont animés par les étudiants. Si possible, donc intégrer dans des cours, tout simplement. Il y a généralement une UE, gestion de projet, ou elle a un autre nom. Et chaque groupe a un tuteur enseignant qui les accompagne, qui peuvent solliciter quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie. Et c'est vraiment le principe aujourd'hui, depuis plusieurs éditions, qu'ils puissent partager ce qu'ils ont déjà acquis dans le cadre de leur cours. Et de manière, en plus, on l'a dit, ludique et dans le cadre de la médiation, donc aussi expliquer à des publics très différents. Alors parfois, ils vont être sollicités par certains de leurs camarades des années suivantes, deux et troisième année, qui vont venir un peu étudier ce qu'on fait cette année et comparer ce que les autres ont fait les autres années. Ils vont être confrontés, peut-être comme aujourd'hui, sur le campus 3, à des étudiants qui ont moins de prérequis scientifiques. Et puis, dans le cadre du festival aussi, il y a un partenariat avec une école primaire. Donc, il y aura aussi des enfants qui vont venir assister à leurs ateliers. Donc, il faudra aussi expliquer de manière encore peut-être plus simple à un public plus jeune. Donc, c'est un bon exercice. Je crois qu'ils vont être confrontés quand même à beaucoup de publics différents. Je pense que ça va être très formateur pour eux.
Et comment est-ce que vous vous êtes préparé à ça, justement, savoir parler de différentes manières selon le public que vous avez en face de vous?
Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est de lire en fait dans les yeux de celui qui nous écoute, soit la compréhension, soit l'incompréhension. C'est quelque chose qui est pour moi assez visible et j'apprécie vraiment d'essayer de trouver différents moyens d'expliquer, différentes manières, différents schémas, différentes métaphores pour essayer de faire comprendre aux gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attends particulièrement le jour où on aura les enfants. C'est parce que c'est chez eux probablement qu'on aura le plus d'émerveillement, le plus de soit de compréhension, soit d'incompréhension. Mais voilà, personnellement, j'attends vraiment de pouvoir tenter de leur faire comprendre et éventuellement d'amener certains d'entre eux vers la filière que moi j'affectionne, la mécatronique.
Alors, la communication, c'est quelque chose où j'ai toujours été relevé parce que donc j'ai la vingtaine maintenant, mais j'ai une mère où je suis dans un milieu qui est très social parce qu'elle est institutrice, mais en école primaire justement. Donc, dans les classes d'âge où on va intervenir. Et c'est quelque chose où, j'ai, où je me suis toujours retrouvé donc, confronté soit à l'aider dans, donc, dans ces sorties scolaires où, et encadrer du coup des enfants. Et du coup, c'est quelque chose de très spécial qui est très formateur parce que les enfants, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et du coup, ils vous feront toujours part de ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils n'hésiteront pas à vous dire les choses en face. Donc ça, ils pourront vraiment nous dire si on leur explique mal ou pas. Mais ça sera très marrant. Et donc, je pense que c'est vraiment l'opportunité de faire accrocher des gens dès le plus jeune âge à la science. Et donc, les mener vers des filières qui, soit peuvent être intéressantes pour eux, soit qui en relèveront. Ou justement, les former à ce qui pourrait les passionner plus tard.
On parle pas mal de... Enfin, on a fait un focus sur votre atelier en particulier avec... où là, on est plutôt dans la science dure, mais il n'y a pas que de la science dure à Enquête de Science. Pourquoi aussi vouloir élargir aux sciences humaines pour aussi peut-être, j'imagine, faire comprendre que c'est aussi une autre forme de science ?
Oui, c'est un peu plus compliqué puisque comme les sciences humaines sont sur d'autres campus, il faut... C'est un travail de longue haleine d'essayer de commencer par convaincre les enseignants de savoir si dans leur organisation de cours, il y a cette petite fenêtre de tir où ils vont pouvoir concevoir un projet. À chaque fois, je profite aussi des autres éditions et de montrer tout le travail qui a été fait avec justement, comme aujourd'hui avec les étudiants de l'ESIX, pour voir ce qu'ils sont capables de faire, à quel point c'est pertinent de les voir se confronter à différents publics et déjà d'expliquer ce qu'ils ont déjà saisi, appris dans leur formation et de valoriser aussi la formation dans laquelle ils sont. Ça, là, cette année, c'est vraiment les trois doctorants du LASLAR qui vont vous proposer la murder party autour du sujet d'Homère, puisqu'il y a un colloque qui est organisé et il y a un meurtre dans le colloque. Il faut réussir à trouver qui est le meurtrier. Donc ça, c'est vraiment une première, la murder party conçue par des étudiants. Généralement, ce sont plutôt le format Escape Game qui avait été choisi. Pour les sciences humaines, voilà, il y a... C'est peut-être moins dans leur culture d'avoir cette démarche de médiation, mais en tout cas, moi, j'essaie de les convaincre de rejoindre le festival. C'est plus simple avec les étudiants en STAPS, qui sont un petit peu entre les deux, entre la science et les sciences humaines, et ils ont, par certains cours, déjà cette sensibilité. Ils sont parfois aussi dans des formations qui ne sont pas vraiment connues du grand public. Je pense à l'ergonomie ou les activités physiques adaptées. On imagine plutôt que ceux qui font STAPS ils vont devenir professeurs d'EPS ou de sport. Or, c'est une filière très riche également, et eux vont également participer. Peut-être vraiment, c'est le côté sciences humaines, comme la littérature, l'histoire, qui pour l'instant est un tout petit peu plus difficile à aller chercher, du fait que ce soit sur un autre campus et peut-être moins dans leur culture. Mais on y arrive, puisque là, cette année, il y a un bon exemple. Alors, c'est possible.
Au moment où on se parle, il y a déjà eu donc une journée de festival qui s'est déroulée. Quels sont les premiers retours que vous pouvez en faire ?
Alors, hier, c'était donc vraiment la journée d'inauguration, on a proposé un atelier qui n'avait jamais été fait, donc en collaboration avec le CEMU, donc qui est maintenant sur le campus 1. Ils ont fait donc sur les trois campus, campus 1, 2 et 3, en simultané, un atelier autour d'un casque de réalité mixte qui s'appelle HoloLens, qui permet donc de voir une réalité, mais on vient y ajouter des objets virtuels qui viennent dans le casque. Ça a très bien fonctionné. C'était une première, et je crois que sur le campus, ça n'avait pas été encore présenté, donc ça permettait de montrer cet aspect nouveauté. Puis, dans l'après-midi, on a vraiment lancé le festival par un goûter qui permettait à la fois de bien communiquer auprès des étudiants pour notamment s'inscrire dans tous les ateliers qui nécessitent une inscription ou d'imaginer ce qu'ils vont voir, notamment dans les ateliers qui ne nécessitent pas forcément d'inscription, comme ceux de l'ESIX, puisque les quatre ateliers, on peut venir les voir dès qu'ils sont présents sans se préinscrire.
Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour la suite de cette édition ? Je m'adresse à vous, mais aussi même aux autres étudiants. Quelles sont vos espérances pour le reste à venir ?
Eh bien, que tous les participants soient très contents de ce qu'ils ont pu faire, des échanges qu'ils vont avoir avec les différents publics, et que le festival, en termes de statistiques aussi, atteigne un chiffre à peu près cohérent comme les années précédentes, autour de 1500 participants. Environ. On a pu atteindre un peu plus, autour de 2000 certaines années, mais globalement, c'est à peu près le chiffre. Donc, si on peut maintenir ce chiffre-là et qu'en plus, tous les animateurs, animatrices d'ateliers ont trouvé vraiment le sens de ce qu'ils voulaient faire et des bons échanges qu'ils vont avoir, on pourra dire que c'est parfaitement réussi.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Pour nous, nos attentes, évidemment, ça va être de pouvoir vraiment essayer de, de vous faire apprendre des choses et également de réussir notre performance aujourd'hui, évidemment, de réussir à amener notre atelier de A à Z, qu'il fonctionne correctement. Et puis, et ce, sur les différentes représentations que nous allons faire, vraiment se donner au maximum et partager notre joie et notre passion pour notre domaine d'études.
Merci à tous d'être venus à notre micro. Je rappelle donc que Julien Legal, vous êtes le coordinateur du festival. Et merci également à Mathias, Martin, Jamy, Tristan, Valentin et Romain, étudiants à l'ESIX et animateurs de l'atelier mécatronique ou magie qui aura donc lieu à partir d'aujourd'hui. Bonne journée et bon festival à tous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Merci encore à Julien Legal et aux étudiants de l'ESIX. C'est pas faux, ça continue dans quelques instants avec d'autres témoignages d'étudiants et étudiantes qui participent à l'organisation d'enquêtes de sciences. Mais avant, on va faire une pause musicale et écouter The Last Dinner Party de Mirror. A tout de suite dans C'est pas faux.
C'était Mirror de The Last Dinner Party. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Aujourd'hui, émission consacrée à Enquête de science. Et tout de suite, on vous propose d'écouter les témoignages d'étudiants et étudiantes qui participent à l'organisation du festival.
Et tout d'abord, on vous propose d'entendre Mathias. Il participe à l'organisation de deux événements, des tournois, d'échecs et de Mario Kart.
C'est Mathias, je suis doctorant juste ici au campus 2 en informatique et je suis aussi le président de l'association Phoenix OCN qu'on a montée en août 2022, qui s'occupe d'un peu de tout ce qui touche à l'e-sport, aux jeux vidéo, aux échecs aussi également. Alors l'atelier, en fait, il était déjà créé, l'atelier échecs notamment, il était déjà créé quand je suis arrivé à l'université. C'était déjà une idée qui était présente et moi j'ai rajouté quelque chose, c'est-à-dire le stream par-dessus. Donc en fait, on bosse avec Julien Le Gall et la FFSU, la Fédération Française de Sport Universitaire, avec Sébastien Bergin. Et en gros, l'idée, c'était de faire un petit peu plus de show, de montrer un peu plus ce qui se passait et donc de faire des parties commentées d'échecs en ligne, en direct. Et l'idée de l'événement, donc là, pour le tournoi d'échecs, c'est de rassembler tous les étudiants, tous les personnels, on s'en fiche de qui joue contre qui, de rassembler tout le monde, et d'essayer aussi de faire une finale en présentiel, en physique, pour commenter tout ça avec les joueurs sur rencontre. Mon asso, elle intervient sur deux événements dans le cadre de cet épisode de Festival Enquête de Sciences. On fait un tournoi d'échecs en ligne, donc du coup, pourquoi venir ? Eh ben, juste tout simplement partager la passion des échecs. Et aussi, il y a un petit côté rigolo à affronter ses profs aux échecs. Ça a rassemblé tout le monde derrière un pseudo, finalement. Peut se cacher un peu n'importe qui, c'est chouette. On s'affronte tous entre nous. Et après, il y a l'idée de se rencontrer en finale, de se voir, de passer un bon moment. Et ça, c'est assez chouette. Et pour le tournoi, du coup, on en fait un autre tournoi sur Mario Kart au Campus 3. Et là, c'est l'idée, je pense, surtout de passer un peu un moment de détente après les cours. Ce sera à 17h30. Au Campus 3 et voilà, et c'est surtout essayer de commencer à créer un lien avec, en tout cas pour mon association, avec les étudiants du Campus 3. C'est un campus qui est souvent délaissé par pas mal d'animations, par mal d'associations, et on avait à cœur aussi de créer du lien avec ce campus. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a énormément, il y a une énorme diversité des activités proposées dans le cadre du festival, que c'est super chouette, qu'il ne faut pas hésiter à en profiter. Et aussi, peut-être promo pour mon asso, donc Phoenix OCN, où on organise aussi des choses toute l'année. Et il ne faut pas hésiter si on veut faire partie des ligues universitaires, rencontrer des gens autour du jeu vidéo, des choses comme ça, quoi.
Cette année, Enquête de Sciences met aussi en avant le sport. Deux ateliers seront organisés sur le sujet.
Je m'appelle Sireba, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ESIX Normandie en mécatronique et système embarqué. Nous avons un projet pour le festival Enquête de Sciences qui porte sur science et sport. Et donc notre but, c'est de montrer comment est-ce que la science peut contribuer au sport en règle générale. Donc il y avait plusieurs thèmes, science et magie, etc. Et du coup, nous, on avait un thème qui était déjà prédéfini, donc science et sport. Vu que j'aime bien le sport, je me suis dit que pourquoi pas ne pas aller sur ça, quoi. Moi, par exemple, je viens d'une licence électronique. Certains de mes coéquipiers viennent d'autres cursus. Et donc, on a des compétences qui sont différentes. Et du coup, ce festival, en fait, il permet de mutualiser un peu tout ça. Donc, vu qu'on a des compétences différentes, et ça simule un peu la situation en entreprise où personne n'est expert dans un domaine. Et ça aide à un peu la collaboration, à comprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, et puis à avoir un objectif qui soit commun à tous et qu'on essaie ensemble d'aller vers cet objectif. Donc, en ça, c'est quelque chose qui va nous apprendre tous. Donc, le premier atelier, c'est un atelier de mini-golf. Donc, c'est-à-dire que le joueur va pouvoir contrôler une sorte de bâton de golf avec deux boutons, etc. Et donc, va pouvoir lui donner de l'inertie. Et le but, c'est de positionner le bouton avec les boutons pour mieux lancer la balle de golf et donc, du coup, de marquer le maximum de points. Il y a aussi le mini-basket avec un panier de basket qui va bouger. Et donc, l'objectif sera à peu près le même, mais cette fois avec un système qui va être un bras mécanique. Donc, on va pouvoir actionner mécaniquement en tapant sur une sorte de levier donc pour actionner la balle. Et ces deux projets sont dans un pan de la science qui est très intéressant et de l'ingénierie surtout. et c'est le domaine de la trajectographie, c'est-à-dire l'étude des mouvements des objets, donc de leur trajectoire. Et du coup, nous voulons, à travers nos ateliers, montrer un peu ce pan-là de l'ingénierie. Notre deuxième, projet va porter sur le laser game. Et donc, il va avoir pour application la réactivité. Vous savez, par exemple, les joueurs de football, les goals, par exemple, ils ont besoin d'être très réactifs pour pouvoir attraper les balles. J'ai été souvent en goal, donc... C'est ce principe-là de réactivité qu'on va mimer à travers un jeu de laser game. Et donc, des LED vont s'allumer et puis l'utilisateur va devoir les toucher le plus rapidement possible avec un laser. Et donc, nous, notre but, c'est de faire comprendre, peut-être de transmettre cette chose-là, de se dire que la science, elle est à peu près partout, et surtout dans le sport. Et cette transmission-là de la science, de démystifier un peu certaines choses, voir qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas compliquées, c'est plus simple qu'il n'y paraît, et surtout de ne pas de montrer aux enfants, surtout, parce que c'est un peu notre objectif, que ce n'est pas vraiment compliqué et qu'ils doivent se lancer s'ils aiment bien ces filières scientifiques-là, quoi.
Mais comme on a pu le dire en première partie d'émission, en quête de science, ça n'est pas que des sciences dures, comme nous le prouvent ces étudiantes en lettres.
Donc bonjour, moi je m'appelle Florine Lemarchand, je suis doctorante en littérature comparée au LASLAR à l'Université de Caen, et surtout en ce qui concerne le festival, je suis membre du Gaming Lab du CEMU, et donc c'est à ce titre que je propose avec mes camarades une murder party.
Je m'appelle Lucie, je suis aussi doctorante en littérature comparée et je travaille aussi au CEMU, au Gaming Lab, à côté du doctorat. Et c'est la première fois qu'on participe au festival Enquête de Sciences.
Moi je m'appelle Arthur Gatté, comme mes camarades présents avec moi, je suis aussi doctorant au LASLAR, je travaille également au CEMU, on nous a proposé de faire cette activité-là, donc nous on s'est décidé que bah, pourquoi pas, ça permettait en fait surtout d'ouvrir le festival Enquête de Sciences à une possibilité de parler des sciences humaines et sociales. Parce que ce n'était pas encore le cas, je crois, avant ça. Donc on nous a proposé de faire une activité autour de ça, étant donné que nous sommes étudiants en SHS. Puis du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, c'est le moment, allons-y, quoi.
En résumé, notre événement, c'est une murder party. Donc c'est un jeu d'enquête et de rôle grandeur nature. Les joueurs auront un peu plus de 2 heures pour découvrir qui a commis un crime. Le tout dans un contexte de colloque universitaire sur le mont Olympe. Donc autant vous dire qu'il va y avoir du drama, il va y avoir de l'acting, il y aura peut-être des petits fours. Enfin en tout cas, il y a de quoi s'amuser. Et ça va être intéressant puisqu'on va parler littérature, culture antique, mais le tout de façon vulgarisée et amusante normalement.
On participe au festival surtout par rapport à notre travail, donc c'est un petit peu détaché de notre thèse. Mais même si en soi le festival ça permet de vulgariser et d'approcher des étudiants... qu'on ne toucherait pas forcément dans le cadre d'une conférence, par exemple sur la littérature ou dans le cadre de notre travail à causer. Donc du coup, c'est toujours intéressant pour rencontrer ces gens-là.
Merci beaucoup aux étudiants et étudiantes qui ont accepté de témoigner. Merci aussi aux étudiants de l'IUT Infocom du Campus 3 qui ont réalisé ces interviews. Et si vous souhaitez participer à ces ateliers et en savoir plus, vous pouvez retrouver les détails sur le site unicamp.fr.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec ce jeudi la finale normande de ma thèse en 180 secondes organisée par Normandie Université et le CNRS Normandie. C'est à 14h à l'amphi Pierre d'Or sur le campus 1 de l'université. 12 doctorants et doctorantes de la région vont venir présenter leur sujet de recherche de manière la plus simple et vulgarisée possible, le tout à l'aide d'une seule diapositive et en 3 minutes seulement. Le lauréat du premier prix du jury et celui du prix du public représenteront la région à la demi-finale nationale qui se déroulera en avril à Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site normandie-univ.fr. Et puis bien évidemment, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais on vous invite à jeter un œil sur le programme d'Enquête de Sciences. On l'a dit tout à l'heure, il est disponible sur le site unicamp.fr, rubrique agenda. Prochain rendez-vous aujourd'hui à 17h avec l'escape game Meurtre au laboratoire.
Et puis votre recommandation documentaire zoom cette semaine sur la chute des dinosaures et sur les traces de la météorite qui en est responsable à travers les recherches inédites de l'archéologue Robert De Palma. Vous pourrez plonger dans le monde des dinosaures et même vivre leurs derniers instants grâce à des images de synthèse remarquables. Le dernier jour des dinosaures, c'est jeudi prochain à 21h15 sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Anaël à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.